Une goutte d'eau dans la mer. Jean-Marc Richard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous avions envie pendant cette période de Noël, période de fête, de dire merci, M-E-R-C-I, merci à toutes celles et tous ceux qui s'engagent au quotidien depuis des jours, des mois, des années, une vie peut-être, s'engager avec et pour les autres. Dire merci, même si cet engagement parfois peut apparaître comme une goutte d'eau dans la mer, c'est ce que nous allons donc faire tout au long de cette semaine. Nous allons le faire demain, par exemple, en direct de la résidence à La Fontaine, qui accueille en particulier des personnes qui sont en situation de handicap psychique ou mental. Nous allons le faire depuis la Villa Flora à Sierre. La Villa Flora qui est un centre de traitement reconnu pour personnes dépendantes de l'alcool et autres substances. Dans le cadre du Noël des isolés de Peseux qui aura lieu le 24 décembre. Et le 25 décembre, nous serons à Fribourg à La Tuile. Une goutte d'eau dans la mer. Mère Teresa a dit un jour, notre travail est une goutte d'eau. Cette goutte est nécessaire. On ne fait pas de grandes choses, seulement des petites avec un amour immense. L'océan est fait de gouttes d'eau. Aujourd'hui, c'est en direct d'un EMS, celui des Baumettes à Renan, que nous vous proposons de découvrir celles et ceux qui s'engagent pour les autres à travers un projet qui a été soutenu par Chacun pour tous à plusieurs reprises. Comme ça, la liaison est faite avec la grille ou les habitudes dites normales de la première. Nous le ferons avec d'autres associations qui ne sont pas étroitement liées à Chacun pour tous, mais qui le sont par exemple à l'action Deux fois Noël que nous mènerons tout au long de cette période de fête. Nous allons le faire donc en direct de cet EMS. On avait il y a quelques instants un monsieur en face de nous qui répondait à un âge de 107 ans, vous avez bien entendu 107 ans, et qui nous disait tout son bonheur de se promener dans le parc de cet EMS du côté des Baumettes à Renan, un parc qui est l'objet de nos préoccupations aujourd'hui. Mais pour l'instant, racontons l'histoire de Rebondard. Rebondard comme rebondir, évidemment, rebondir dans la vie, et art comme artistique, comme art tout court. Bonjour Olivier Moret.
Bonjour Jean-Marc.
Rebondard, au-delà bien sûr de l'explication du verbe et du mot, Rebondard a une genèse, 10 ans de vie cette année, en 2009. Comment est-ce que tout cela a commencé ?
Alors ça a commencé par l'initiative d'une cinéaste, Denis Gillian, qui avait fait un documentaire à Paris en 98 sur des SDF qui montaient une pièce de théâtre qui a été jouée au théâtre de la ville. Et quand elle est revenue en Suisse, elle s'est dit, mais il faudrait peut-être mener une action comme ça ici. Elle s'est renseignée, il n'y avait rien qui était mis en place à l'époque. Alors elle a réuni quelques personnes autour d'elle et elle a créé l'association Rebondard.
Avec la volonté de redonner une dignité ou de recréer une certaine fierté chez les gens qui participent à ces ateliers. Alors pourquoi l'art ? Pourquoi l'art c'est mieux que le sport, je ne sais pas, que la cuisine ou qu'autre chose ?
Alors c'est pas mieux. Il se trouve que les personnes qui sont à la base de l'association pensaient et pensent toujours d'ailleurs que l'art est l'activité créatrice en général ou artistique développe et déclenche des mécanismes à l'intérieur de soi qui permettent à la personne de se retrouver et de se rendre compte à quel point elle est capable de faire des belles choses, elle est capable de créer, elle est capable d'émerveiller son alentour et les autres. C'est une forme de communication, une espèce de communication qui est riche.
Alors dites-moi, vous avez parlé de déclic à l'intérieur, parce que cette situation de détresse que vous décrivez parfois par rapport à vos bénéficiaires ou ceux qui participent aux actions, cette situation de détresse, elle est intérieure ?
Alors, détresse, le terme peut paraître un peu fort, mais moi je préfère parler de souffrance passagère ou de fragilité passagère. On essaye de s'adresser à des personnes qui ont une souffrance à un moment donné ou qui sont dans une situation un peu difficile, et on pense que en leur offrant la possibilité de participer à des ateliers des ateliers bien structurés et qui ont des beaux projets, on pense que ça peut les aider à recouvrer un peu plus de fierté, voire de confiance en elles.
Est-ce que ça veut dire que la détresse est un sentiment, c'est pas une réalité ?
Moi, je pense que c'est une conséquence d'une période de vie qu'on peut vivre plus ou moins bien, ou de choses qui nous arrivent dans la vie. Ça nous arrive tous à un moment donné ou à un autre d'être confrontés à des problèmes, et on peut souffrir ou on peut être en détresse momentanément.
Alors, il y a d'autres mots qui sont régulièrement utilisés, démunis, misère, marge, exclusion, c'est des profils comme ça ?
Écoutez, c'est toujours difficile de faire un... de pointer les gens du doigt et de dire ben voilà quelqu'un qui est exclu ou quelqu'un qui est en détresse ou mais c'est des termes qui montrent la difficulté que certaines personnes ont pour être intégrées ou bien s'intégrer à la société.
Est-ce que ces personnes acceptent qu'on dise d'elles qu'elles sont je sais pas en situation de précarité, en exclusion, en marge?
Non, je pense pas, et c'est une question de fierté personnelle. C'est elles sont sensibles à leur souffrance, mais elles ont pas envie qu'on les monte du doigt en disant bah voilà une personne en détresse. Et c'est pas notre volonté. Mais il se trouve que pour passer notre message, on emploie des termes qui peuvent paraître comme ça un peu stigmatisants, mais c'est pas notre volonté de stigmatiser ces personnes.
Bonjour Fatima.
Marc.
Merci d'être avec nous, Fatima. Vous avez participé au projet dont nous allons parler tout à l'heure. Aujourd'hui, il y avait un petit refroidissement à la clé puis des routes difficiles d'accès, donc vous êtes en direct au téléphone avec nous. Fatima, ça vous gêne quand on dit Fatima, comme les autres bénéficiaires de ce projet, c'est quelqu'un qui est une marginale, qui est en marge? Ça vous met en colère? Ça provoque quelle réaction chez vous?
Non, ça ne me met pas en colère. Ça provoque une réaction chez moi. De tristesse, je dirais. Parce que c'est vrai que d'être en marge, de voir les autres fonctionner dans une société, d'avoir un travail, un revenu, une satisfaction au long des jours, des semaines, des mois, de construire un peu sa vie au sein de la société par une activité professionnelle, c'est difficile pour moi de voir que je ne fais plus partie de cette réalité. Et je me sens donc marginalisée, effectivement, oui. Donc, c'est pas un terme qui me met en colère, mais qui m'attriste, oui.
Vous avez l'impression que c'est une facilité, en fait. On montre du doigt les gens, on dit « Ah, ça, c'est une marginale » ou « Ça, c'est un marginal ».
Je sais pas si c'est facilité. Je pense que ceux qui emploient comme ça le terme, ils ne se rendent pas vraiment compte de la réalité que nous vivons de l'autre côté.
Alors Fatima, si vous êtes d'accord, restez avec nous. Je ne vous présente pas Corinne Jaillet, puisque vous la connaissez, c'est une des bénévoles de Rebond d'Art. Il y a beaucoup de bénévoles, hein. C'est quoi la place du bénévolat? Parce qu'on parle beaucoup de bénévolat aujourd'hui, évidemment, pour dire merci aux bénévoles, merci à ceux qui s'engagent pour les autres. Alors c'est quoi la part du bénévolat? Bonjour Corinne.
Bonjour Jean-Marc.
Au sein de l'association.
Alors, pour moi, le bénévolat, moi, je vais parler en mon nom, parce qu'en effet, le bénévolat peut être totalement différent d'une personne à l'autre. Moi, je suis extrêmement touchée par tout ce qui se passe dans le monde, par les malheurs que vivent beaucoup de gens. Et le but pour moi de faire du bénévolat, c'est pas vraiment de me rendre utile, mais déjà, la première chose, c'est d'avoir une liberté de choisir pour qui et avec qui j'aimerais avancer et donner quelque chose de moi. Et du coup, je le donne avec beaucoup plus de conviction et puis de je sais pas trop comment dire, en fait.
Mais pourquoi vous avez choisi ce domaine-là, celui, disons, entre guillemets, de la détresse passagère, comme le disait tout à l'heure Olivier Moret? Pourquoi vous avez choisi ça plutôt qu'un autre domaine?
Alors, j'ai bien aimé le concept de rebondir, c'est-à-dire que de pouvoir participer à un projet créatif et puis d'essayer de redonner de la confiance en ces personnes qui ont justement des difficultés passagères ou quelque chose de vécu qui est difficile à faire remonter la pente. Je trouve intéressant de pouvoir participer à un projet où la culture et l'art étaient... présente.
Est-ce que vous êtes dit à un moment donné, ça aurait pu m'arriver à moi ou ça peut m'arriver à moi?
Alors oui, bah ça je me le dis toujours, en fait, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de rien, et puis qu'en tant que bénévole, le fait aussi de donner quelque chose, ça permet aussi de se dire que bah, le jour où peut-être moi j'aurai besoin de quelque chose, j'aurai certainement quelqu'un derrière qui pourra m'aider.
Olivier, comment est-ce que les gens arrivent dans vos projets?
Les participants aux ateliers? Alors on a un réseau d'associations avec Rebond d'Art, des associations qui ont un but social ou culturel, et on fait appel à ces associations pour lorsqu'on monte un projet, pour savoir si les gens qui côtoient ces associations seraient intéressés. A priori, ce sont des gens qui qui répondent plus ou moins au profil auquel on a décidé de s'occuper.
Alors justement, parlons un petit peu des projets, pas de celui des Baumettes, parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais de ceux qui ont précédé, un ou deux exemples de projets que vous avez menés avec Rebondard.
Alors on a commencé par faire des ateliers qu'on offrait clé en main à des associations qui n'avaient pas d'activité culturelle. Ensuite, on a changé d'optique et on a monté une pièce de théâtre qui était jouée au théâtre de Vidy avec des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre. On a fait un atelier de cinéma d'animation et on est arrivé à cet atelier de land art. Ça peut paraître prétentieux, mais on va dire de réaménagement d'un parc.
Voilà, alors justement, bonjour Christian Fonjala. Merci de nous accueillir chez vous dans cette EMS au Baumettes. Réaménager un parc, pas un tout petit, hein, un grand parc.
Oui, 10 000 mètres carrés.
Oui, c'est peu de le dire. Ça paraissait évident pour vous qu'on fasse ça quand on entend la philosophie de l'association Rebondard, c'était ça?
Alors c'était une aventure vraiment au départ, et puis comme observateur du travail de Rebondard, je peux dire que les participants, ils ont montré beaucoup de courage dans leur travail, parce que c'est partir de l'inconnu, et avec l'appui qui était apporté par des bénévoles qu'on prend comme des amateurs, mais avec un travail qui était bien cadré, bien organisé, c'était très intéressant à voir.
Mais pourquoi vous avez fait ça, le parc, pourquoi pas, j'imagine, je sais pas moi, un grand dessin, une grande peinture, je sais pas, quelque chose d'autre?
Ah, c'est des idées qu'on a aussi eues, parce que c'est parti vraiment un peu dans tous les sens, et puis le parc est un lieu important pour les Baumettes. On bénéficie vraiment d'un parc naturel, arborisé, magnifique, et puis le fait de pouvoir y implanter des sculptures ou des immobiles, ça permettait d'y donner un peu d'animation, puis un but de promenade supplémentaire. Alors c'est vraiment le poumon vraiment de l'EMS, ce parc.
On trouve donc des sculptures, hein, vous l'avez dit, ce sont des sculptures qu'ont aménagé les gens de Rebondard, quelque chose dans l'esprit.
Oui, tout à fait.
Ouais. Alors comment est-ce qu'elles sont ces sculptures? On peut les décrire, Olivier, parce que là on est à la radio et puis on n'est pas vraiment à l'extérieur parce qu'il fait un peu frisqué aujourd'hui, mais comment est-ce qu'elles sont ces sculptures?
Alors pour autant que ce serait possible de décrire des sculptures, c'est des sculptures qui ont été faites avec des matériaux naturels.
Oui.
Et ce sont des œuvres qui sont issues vraiment de l'imagination des participants. Ils avaient le parc à disposition et ils avaient le choix de créer ce qu'ils désiraient.
Fatima, vous êtes arrivée dans cette aventure d'abord avec les clips, des clips vidéo, puis ensuite dans cette aventure du jardin de l'EMS des Baumettes. Comment êtes-vous arrivée dans cette aventure en général de Rebondard?
Je suis arrivée par le biais du GRAP, association dans laquelle je suis toujours inscrite et je fais toujours partie. J'ai vu une annonce qui demandait des participants pour un atelier de films d'animation. Et ils nous donnaient rendez-vous dans un cinéma de Lausanne pour nous expliquer ce que c'était le projet et tout ça. Et en voyant ça, je me suis dit, film d'animation, moi je sais pas faire des films d'animation, mais je ne dois pas perdre grand-chose à aller voir ce qu'il propose. Puisque mon désir à ce moment-là, c'était vraiment de sortir de mon rôle de victime et de me prendre en main et d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y avait à dire, qu'est-ce qu'il voulait sortir. C'est comme ça que je suis arrivée au rendez-vous au cinéma et que je me suis retrouvée face à face avec Bobby Anglais qui m'a expliqué ce que c'était les films d'animation. Et moi, je me suis dit, mais moi, je ne m'intéresse pas à ça, donc voilà, merci quand même. Et il m'a dit, mais pourquoi vous venez pas voir une première fois? Après, si ça vous intéresse vraiment pas, vous pouvez toujours partir. C'est comme ça que j'ai démarré dans cette aventure et je suis arrivée au bout avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de satisfaction.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, Fatima, beaucoup de difficultés? C'était par rapport à vous-même, à ce que vous ressentiez, ce que vous étiez en train de vivre?
Oui, par rapport à ça et aussi par rapport à la créativité. À chaque pas, je doutais de ce que je faisais. Je me disais que ça ne valait rien. Je me disais que je n'arrivais pas au bout, que ça n'aurait pas de mine, que ça ne pourrait pas être présenté. J'étais tout le temps dans le doute, dans la difficulté. Et voilà, c'était comme ça. Assez difficile aussi de faire dans le groupe. C'était pas facile pour moi.
Fatima, on va reparler tout à l'heure de ce que ça a apporté pour vous. Juste avant, je voudrais demander à Olivier Moret et à Corinne Jaillet, ce que vous attendez des participants, c'est quoi exactement? Du courage, de la volonté?
Écoutez, on passe un contrat avec les participants. On n'a pas envie d'offrir un atelier aux participants sans rien leur demander. C'est une question de respect. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de faire l'effort de venir à chaque atelier et quand ils commencent leur travail, c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est une manière qu'on a, nous, de leur demander une sorte d'écho de leur part, c'est tout. Mmh. Et c'est pas une offre qu'on fait, c'est pas un don qu'on fait, c'est juste un contrat qu'on passe. Et c'est notre manière de respecter les gens.
Corinne ?
Oui, et moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les participants sont arrivés avec beaucoup de courage et de persévérance. Ils sont arrivés d'eux-mêmes, ils sont venus à une séance d'information, comme le disait Fatima. Et pour la plupart d'entre eux, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et ça, il faut le souligner parce que c'est vraiment des personnes qui ont donné énormément, qui savaient pas trop où ils allaient et qu'il leur a fallu beaucoup de courage pour arriver à ce qu'ils sont arrivés en fait à la fin du projet.
Fatima, le mot courage, ça vous parle? Ça correspond à quelque chose pour vous?
Totalement. Totalement. Je suis d'accord avec Corinne. Effectivement, il nous fallait du courage. Moi, il m'a déjà fallu du courage de me dire je vais participer à un atelier créatif parce que j'étais vraiment dans l'idée que je n'étais pas créatrice, que je ne savais pas faire quoi que ce soit de mes mains. Et de voir au sein du groupe aussi des garçons, des filles qui savaient dessiner, qui savaient faire des choses de leur main, ça ne me rassurait pas. Je me disais, je ne suis pas capable de construire des petites figurines, je ne suis pas capable de faire du dessin, je ne suis pas capable de faire du moldage, qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas ma place ici. Et c'était vraiment Robbie Engler et son assistant qui m'ont encouragé, qui m'ont dit « mais il y a d'autres moyens d'expression et on te laisse choisir le matériel ». Et effectivement, j'ai contourné la difficulté et je suis arrivée au bout. Mais c'est effectivement du courage qu'il nous faut puiser au fond de nous pour arriver à la fin de ce projet.
Fatima, nous sommes en direct de l'EMS des Baumettes, nous avons devant nous des gens qui s'engagent pour d'autres et avec d'autres, et puis nous avons vous, Fatima, avec nous qui témoignez de ce que vous avez fait, et j'aimerais vous entendre sur ce que cela vous a apporté réellement de participer au projet des clips vidéo que vous avez évoqués, et puis au projet ici au Baumettes. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez eu plus confiance en vous? Vous avez pu dire cette fois je l'ai fait, ou comment vous l'avez vécu?
Oui, beaucoup de confiance. Oui, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Je suis moi-même très étonnée de voir à quel point ça peut me construire, me solidifier à l'intérieur et à quel point je suis en train de vivre une phase peut-être qui m'a manqué dans mon enfance, que c'est celle de croire à une idée et d'aller jusqu'au bout, d'en faire quelque chose et de voir le résultat, en quelque sorte d'assister à quelque chose. C'est un peu comme ça que j'ai vécu ces deux ateliers. Au fur et à mesure que ça se déroulait, j'assistais un peu à la métamorphose. Et j'avais des fois peine à croire que c'était moi qui étais impliquée dans ces projets et qui avait eu cette idée et qui la mettait en réalisation.
Donc, vous avez Fatima...
dire que ça m'apporte confiance en moi, c'est vraiment ça. Ça m'apporte confiance et ça me construit, ça me solidifie.
Fatima, vous avez un autre regard sur vous-même ou de vous-même?
Oui, oui, totalement. Déjà, ça m'apprend à me faire confiance. C'est-à-dire que j'ai encore fait le constat cette fois pour l'atelier de Landar. Une fois que j'ai exposé à Étienne Volet mon projet, ou c'est-à-dire le titre qui m'était venu à l'idée et comment je le voyais, j'étais déjà prête à y renoncer. J'étais déjà en train de dire, ouais, mais bon, ça, je sais pas comment je vais le faire. Peut-être qu'il faut que je voie autre chose. J'étais déjà prête à renoncer parce que j'y croyais pas. Et quand il m'a dit, mais Fatima, ton projet m'intéresse. Moi, je trouve que c'est valable et qu'il faut y aller. Je me suis dit, bon, ben, si lui, il pense que oui, donc allons-y. Et effectivement, c'est à la fin, le constat, c'est ça. J'apprends à faire confiance à mes idées. Et à les suivre, et à aller jusqu'au bout. Et c'est pas rien, je peux vous le dire.
Olivier, tout ça, c'est une goutte d'eau dans la mer?
C'est une goutte d'eau, mais c'est une belle goutte d'eau, et je pense que c'est primordial de faire ce genre d'avoir ce genre d'action. Par rapport à l'association, je voulais juste vous dire qu'on est tous des bénévoles, et comme dans toutes les associations de bénévoles, il y a un renouvellement qui se fait au sein du comité. Donc j'invite volontiers les gens qui seraient susceptibles ou qui seraient intéressés par notre démarche à nous prendre contact avec nous pour participer à la prochaine aventure qui n'est pas encore tout à fait choisie et dont ils feront partie. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées. Je ne sais pas si on passe par votre intermédiaire.
Oui, on peut peut-être donner le numéro de téléphone de Chacun pour tous, qui est souvent utilisé, puis on vous donnera des renseignements. Et puis vous allez aussi sur le site internet rsr.ch et vous cherchez le site d'une goutte d'eau dans la mer. Le numéro de téléphone, c'est 021-318-16-00, 021-318-16-00. Merci beaucoup, Fatima, de nous avoir accompagnés. Bon rétablissement.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Rebondar. Et courage aux prochains bénévoles qui feront ce travail. Je pense qu'ils peuvent en sortir aussi très enrichis.
Merci. C'est donc ces 5 lettres que nous avions envie de mettre en avant aujourd'hui par rapport à votre travail. Rebondard, Corinne Jaillet, Olivier Moret. Merci de nous avoir accueillis chez vous, Christian. Encore un mot peut-être en conclusion rapidement sur 2-3 choses qui vont se passer.
Bon, surtout ne pas oublier de venir visiter l'exposition Land Art de notre parc dès le printemps. Maintenant, c'est pas la bonne saison, mais venez regarder, ça vaut la peine de voir le résultat.
Et vous ne l'oubliez pas, nous serons tout au long de cette semaine à dire merci, à parler de celles et de ceux qui s'engagent. Nous le ferons donc demain du côté de Courtemèche à la résidence à La Fontaine, après-demain à la Villa Flora à Sierre, Noël des Isolés de Peuzeux, venez nous y retrouver le jeudi 24 décembre et le 25 à la Tuile. Et puis, préparez-vous, mesdames, messieurs, à l'action Deux fois Noël, parce qu'on est dans le concret, hein, l'engagement bénévole. Chacune et chacun peut s'engager pour les plus défavorisés, les plus démunis d'ici et d'ailleurs. Action Deux fois Noël qui démarre le 24 décembre pour se terminer le 9 janvier. Et que nous vous proposerons de partager avec nous. Et ça, je peux vous dire, même si c'est une petite goutte d'eau dans la mer, finalement la mer n'est faite que de gouttes d'eau. Exemple donc de cette émission en direct de l'EMS des Baumettes à Renan. Merci à toutes et à tous, au revoir, à demain.
La première vous offre l'heure.
Il est midi et demi sur la première, et pour le journal de la mi-journée, vous avez rendez-vous avec Natacha.